pu parler après Madeleine Rébériou et sur un sujet aussi grave que le mien, évidemment c'est une gageure. Étant donné que sous le terme d'effondrement, capitulation, faillite de la deuxième internationale, on désigne la fin d'une toute époque de développement du mouvement ouvrier. Une époque qui commence à peu près au lendemain de la Commune de Paris sur une défaite et s'achève en 1914 sur une catastrophe. Pour y comprendre ce que le titre appelle capitulation, qui est l'effondrement, évidemment, nous disposons de nombreux types d'explications. Il y a le type léniniste pour qui l'effondrement de la deuxième internationale signifie l'effondrement de l'opportunisme. Il y a le type social-démocrate pour qui 1914 c'est un fait inscrit même dans le développement du mouvement ouvrier, dans le sens d'intégration de la nation, et devant le choix mis avant 1914, le parti social-démocrate, l'international, se conforme au désir des masses ouvrières et s'intègre à côté de la nation. Grosso modo, ce sont les deux types d'explications que vous trouvez presque dans tous les ouvrages, des explications et conférences. Et je pense que les idées reçues concernant ce sujet sont nombreuses. Je n'essaierai pas de changer toutes les idées reçues, mais de tâcher de vous donner un type d'idée un peu différente qui s'insère à la fois dans le contexte d'avant 1914 et peut-être aussi dans les problèmes d'aujourd'hui. 14, c'est un point d'arrivée. Donc, pour comprendre ce point d'arrivée, je vous propose de traiter 4 ou 5 grands sujets. La première, j'essaie de vous donner une caractérisation générale de ce qu'on appelle aujourd'hui l'époque de la deuxième internationale. L'époque de la deuxième internationale qui marque profondément le profil et même le contenu du mouvement ouvrier jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Premièrement, c'est l'époque de recrutement. Si le mouvement ouvrier, en 1870, après la Commune, ne compte dans ses rangs que quelques milliers de militants, en 1914, l'ensemble des partis affiliés à la Deuxième Internationale peuvent parler de plusieurs millions d'adhérents, sans parler des syndicats, des coopératives de type socialiste qui, sur plan international, font état d'un chiffre de plus de 10 millions de membres. À ça s'ajoute un nombre considérable des députés socialistes. Il y a presque plus de 500 députés socialistes. Et dans certains parlements, comme en Allemagne, ou en France, ou en Italie, et Belgique, les socialistes, les social-démocrates représentent la fraction la plus puissante qui siège. À ça s'ajoute un réseau énorme des journaux, avec un tirage qui, même pour aujourd'hui, semble énorme. Seul le Parti social-démocrate dispose de plusieurs centaines de journaux, certaines obtenant le tirage de millions. Voilà une puissance, un recrutement massif, un recrutement sur tous les niveaux. Deuxièmement, notre caractéristique très importante, c'est l'expansion géographique du socialisme. Si, dans l'époque de la Première Internationale, la zone d'expansion du socialisme se limite à quelques pays capitalistes d'Europe centrale occidentale, en 1914, pratiquement, des groupes socialistes, sinon des partis, sont présents ou puissamment implantés dans toute l'Europe et au-delà. La naissance du socialisme en Amérique latine, en Asie, date déjà à cette époque-là. Une troisième caractéristique très importante dans cette période, période de recrutement et de croissance, c'est en même temps la cristallisation des formes modernes d'organisation et de combat du mouvement ouvrier. Les syndicats, à travers diverses phases d'évolution, les partis politiques font leur apparition, structuration et mutation en même temps dans ce bref laps de temps entre 1880 et 1914. Il s'agit des partis devenus partis des masses, partis qu'on désigne partis de type social-démocrate. J'entrerai pas dans la typologie de ces partis, mais un des traits caractéristiques des partis type social-démocrate réside dans un type d'alliance entre les partis et les syndicats. L'image qu'on donne, et je vous cite ici un dirigeant social-démocrate suisse, celui d'un couple où le parti est le mari et le syndicat est la femme. Et cette image de couple désigne exactement le type de subordination rêvée, théoriquement rêvée. Car pratiquement, et c'est un fait très important, dans ce mariage, très mauvais mariage d'ailleurs, c'est la femme qui s'avère plus puissante. Mais une femme qui se situe à côté droite et pas à côté gauche du mouvement ouvrier, si on juge après l'expérience social-démocrate, par exemple en Allemagne ou dans d'autres pays. Il faut souligner ces différences par comparaison avec la France où effectivement le syndicalisme révolutionnaire sera l'aile marchande de la gauche du mouvement ouvrier. Un quatrième trait caractéristique de cette époque, que malgré cette expansion du mouvement socialiste, mouvement ouvrier au-delà de l'Europe, le mouvement ouvrier et mouvement social-démocrate reste Europe-centrique. Et cette Europe est une Europe très réduite. Ce centre d'Europe est finalement Europe occidentale et le grand puissance de la Deuxième Internationale, le parti guide, c'est le parti social-démocrate allemand. Parti guide, terme utilisé déjà avant 1914, modèle repris après 1918 par le parti bolchevique dans l'intérieur de la Troisième Internationale. Parti social-démocrate, qui exerce dans la Deuxième Internationale une hégémonie de type multiple. D'abord par sa puissance, c'est le plus grand et plus puissant parti de masse. Par la valeur et nombre de ses institutions, de ses militants. C'est un parti qui, avant 1914, dispose de plusieurs milliers de permanents. Tandis que, je ne sais pas si Madeleine Reberu a fait état de la situation en France, le permanent, c'est pratiquement un phénomène inconnu avant 1914. Le parti, l'SFIO, son caisse ne permettait pas l'existence des permanents. Sans parler de valeur de ses journaux et de ses théoriciens. Quand on parle de marxisme avant 1914, on parle de la social-démocratie allemande. Et réaliser Lénine, même à la veille de 1914, quand il parle de parti modèle, parti aîné, parti qui guide le mouvement, il se réfère au parti social-démocrate allemand. Et dans certaines mesures, très longtemps, la social-démocratie russe, dans son édition bolchevique ou menchevique, sera quelque sorte l'enfant, que je reste toujours dans l'image de famille, de la social-démocratie allemande. Et le bolchevisme, je fais une parenthèse, et le léniniste trouvera son profil, sa voix, au moment qu'on va se débarrasser ou se libérer de paternalisme de la social-démocratie allemande sur le plan organisationnel, au modèle organisationnel, et de kautskyanisme en tant qu'idéologie. Une cinquième caractéristique et très importante de cette époque de la Deuxième Internationale réside dans le fait que sur plan international et sur plan national, les diverses tendances à l'intérieur du socialisme cohabitent dans la même institution. Dans le cadre Deuxième Internationale comme une institution, c'est finalement une fédération des partis autonomes. Et les partis, sur plan national, essayent de maintenir un équilibre entre les diverses tendances dans la scène du parti. Si on prend le Parti social-démocrate allemand, qui officiellement est un parti marxiste, vous y retrouvez les trois grandes tendances. Les révisionnistes, les dites marxistes orthodoxes, ou le centre Kautsky, et une aile gauche, les radicaux de gauche, j'utilise le pluriel. Mais pas tous les partis sont des partis marxistes. Avant 1914, le marxisme deviennent hégémones sur plan international, dans le sens que ce sont les thèmes empruntés du marxisme, certaines positions de base, comme le principe de lutte de classe, qui imprime l'esprit ou la lettre des résolutions de la Deuxième Internationale. Mais la zone d'expansion de marxisme, sa pénétration dans divers mouvements ouvriers, se limite à cette époque-là à Europe centrale et à Europe orientale. Si un trait caractérise la réception de marxisme avant 1914, c'est une réception fragmentaire, éclectique. Et si on est très sévère, si on juge même le Parti social-démocrate allemand, si on analyse un peu les textes programmatiques et l'esprit qui règne de la partie, on découvre la même réception éclectique. Ce mélange entre l'assalianisme, entre cette conception de socialisme d'État et certains thèmes marxistes. Très importante parce que, en général, on met en cause le marxisme en 1914, et 1914 est brandé par les adversaires du socialisme comme l'effondrement et la défaite du marxisme. D'ailleurs, dans le vocabulaire d'après 1914, c'est reprendre un terme qui est celui de marxisme de la Deuxième Internationale pour essayer de définir ce type de réception éclectique et cette vision de marxisme, donc la représentante théorique le plus proéminente est Karl Kautsky. Il ne faut pas que j'écrive ce nom, je pense que vous les connaissez très bien. Et voilà en grande ligne le cadre dans lequel se déroule le cadre, disons, du mouvement socialiste. Il faudra peut-être ajouter un phénomène, je pense que dans une de vos conférences, il était question, c'est la relation entre la structure sociale des organisations, des partis et des syndicats et les structures du mouvement de la classe ouvrière en pleine transformation de cette époque. Les partis, les syndicats ont pris naissance à peu près dans la même époque, dans les années 1880-90, quand la figure centrale du mouvement ouvrier et la figure centrale de la classe ouvrière est recrutée essentiellement des ouvrières des anciens métiers, des artisans, des ouvriers hautement qualifiés. Or, quel est le phénomène caractéristique pour le développement de la classe ouvrière au début du XXe siècle? C'est l'apparition sur la scène sociale et politique, du prolétariat des usines. Cette classe ouvrière liée à l'industrie moderne, finalement, va trouver son forme d'organisation, son cadre d'accueil dans les organisations, dans les partis créés et dirigés par les cadres du mouvement ouvrier, caractéristiques pour une période initiale. Regardez les biographies des dirigeants du mouvement ouvrier en 1914. Sur le premier plan, vous retrouverez tous ceux qui ont été les chefs historiques des partis, ceux qui ont créé les partis. Qui sont ces dirigeants? Prenez Bebel. La légende veut qu'il est ouvrier. Bebel est un artisan hautement qualifié qui, en 1880, dispose d'une petite fabrique confortable. En Belgique, Anziel, c'est typographe. Van der Velde, c'est un intellectuel. Les dirigeants du mouvement ouvrier en Autriche, Victor Adler, c'est un docteur. Et on pourra allonger la liste des chefs historiques qui correspondent effectivement à l'époque même, à cette configuration sociale qui caractérise l'époque quand les partis ont pris naissance. Le même phénomène on constate au niveau des dirigeants de deuxième rang. Ceux, donc le nom sera connu dans les périodes d'Union sacrée et lors de la révolution en Allemagne en 1918, Scheidemann par exemple. Ils appartiennent également à ce type de militants ouvriers issus des vieilles métiers, issus d'une classe ouvrière traditionnelle. Dans notre terme, si dans cette expansion, cet recrutement numérique, la masse des militantes est fournie par le prolétariat moderne industriel, une grande partie des dirigeants, des cadres de ces partis se recrutent encore dans les catégories socio-professionnelles traditionnelles des vieux métiers. Le problème, le second problème dont j'aimerais parler, qui est essentiel pour la compréhension de notre thème, c'est le problème, la question du pouvoir et le problème d'alliance tel qu'il se pose à l'époque de la Deuxième Internationale. La perspective dans laquelle s'insère le mouvement fin 19e siècle, c'est la perspective de l'effondrement immédiat à court terme du capitalisme. Engels et Bebel et tous les dirigeants de l'époque prophétisent même pour les années 1893-96 l'effondrement du capitalisme. Et même après le tournant du siècle, quand les perspectives changent, l'optique et stratégie socialiste est dominée par la vision d'un avènement de société collectiviste à un bref ou moyen échéance à moyen terme. Pour y aboutir, pour y arriver, la stratégie proposée encore par Engels et formulée par Kautsky, c'est la stratégie de la lutte de classe légale. Donc, l'instrument le plus important, le moyen le plus important, doit fournir les institutions de la démocratie bourgeoise, avant tout le Parlement. Le combat pour le suffrage universel et la croyance dans les vertus et la force de suffrage universel domine cette époque et caractérise la mentalité même des ouvriers. Ici, vous retrouvez tout un héritage de la démocratie bourgeoise 48 ans que le mouvement ouvrier reprend à son compte, qu'il généralise et met au centre même de toutes ses perspectives stratégiques. Par conséquent, avec la conquête de suffrage universel, conquête que le mouvement ouvrier obtient à travers des luttes héroïques, comme par exemple en Belgique, à travers une série de grèves générales, ou en Autriche, à travers des mouvements de masse, va accentuer cette stratégie parlementaire et va situer au centre de gravité d'activité des partis social-démocrates l'activité parlementaire. L'activité parlementaire paraît de plus en plus, à partir de fin du 19e siècle, comme la seule voie qui mène au pouvoir. Le problème de prise de pouvoir est réduit au problème du bulletin de vote. Perspective importante, car les grands débats sur la question de tactique qui vont diviser le mouvement ouvrier, qui vont permis de cristalliser les positions, vont finalement centrer autour du problème du Parlement. La question qui divise les divers courants se résume au problème essentiel, si cette tactique se base ou non sur les principes de lutte de classe. Par conséquent, si les partis social-démocrates doivent ou non entrer en alliance tactique avec les partis bourgeois en vue de conquérir la majorité parlementaire. La gauche s'y oppose catégoriquement. Pour elle, le Parlement n'est qu'un moyen, n'est pas un but en soi. Les tendances réformistes, par contre, demandent aller plus loin que accepter l'alliance. Madeleine Rabiru vous a parlé de problèmes de Mitterrand, des ministérialismes. Ce n'est pas un phénomène simplement circonscrit à la France. C'est le problème, l'interrogation centrale qui préoccupe la social-démocratie dans la majorité des pays européens. Et nous sommes ici à un des problèmes et paradoxes et contradictions le plus caractéristique pour toute l'époque de la Deuxième Internationale et pour tous les partis social-démocrates. Donc, l'exemple le plus achevé, nous trouvons en Allemagne. Pourquoi en Allemagne? En Allemagne, parce que le Parti social-démocrate, dans la constellation sociale et politique d'Allemagne impériale, occupe à la fois la place d'un parti libéral, d'un parti démocratique et d'un parti socialiste. Dans cette vie politique, c'est très important pour comprendre ensuite toute l'évolution ultérieure de l'SPD, dans cette vie politique, dans cette immaturité de la bourgeoisie, il incombe la social-démocratie être à la fois le parti de la démocratie bourgeoise et du socialisme. Et le parti social-démocrate, comme tel, s'enferme dans cette contradiction sans pouvoir choisir, sans oser choisir, sans oser prendre une orientation clairement révisionniste telle qu'il réclame Bernstein et s'en transformer dans un grand parti populaire, ni prendre une orientation socialiste et révolutionnaire claire et d'adopter une stratégie révolutionnaire. Pour s'en sortir, il s'enferme dans un immobilisme, dans le sens qu'il refuse l'alliance avec les partis bourgeois, tout en pratiquant une politique, une stratégie, une vision qui est celle d'un parti démocrate ou libéral de l'époque. Le socialisme comme tel est relégué parmi les objectifs programmatiques, et c'est une politique réformiste, une politique des conquêtes des quotidiens qui occupe et qui se situe au centre même de toute l'activité du Parti social-démocrate allemand. Je cite le Parti social-démocrate allemand, étant donné que son exemple comme tel est très caractéristique pour le métamorphose, pour le développement d'ensemble du mouvement dans cette époque-là. Évidemment, cet immobilisme comme tel joue un rôle très important en 1914, et ce désir de mettre terme au immobilisme. Je reviens à ce problème. Mais évidemment, la deuxième internationale ne se résume pas tout simplement à la prédominance des diverses tendances modérées réformistes ou centristes. Dans la deuxième internationale existe une aile gauche ou, plus précisément, une pluralité des tendances de gauche qui s'accordent sur une seule plateforme, la nécessité de proposer une alternative révolutionnaire pour le mouvement ouvrier international. Je dis un seul parce que pour le reste, ce qui caractérise l'activité théorique, politique de la gauche dans la deuxième internationale, sur plan global que sur plan national, c'est la division très profonde. La division que vous retrouvez de manière éclatante et précise, concrétisée dans la divergence entre Lénine et Rosa Luxembourg. Sur plan international, sur plan national à l'intérieur de l'Allemagne, vous retrouverez cette pluralité de tendances de l'extrême gauche dans la division entre l'extrême gauche, par exemple, de Bremen, qui est une ville de grande implantation du mouvement ouvrier, et Rosa Luxembourg et son groupe. Je vous cite cet exemple, on pourrait donner autre. Mais, en grande ligne, cette divergence sur plan de la stratégie se cristallise autour de deux conceptions, deux visions. Celle de Rosa Luxembourg qui, à la stratégie d'effondrement, qui est la stratégie officielle de la social-démocratie, qui prévoit qu'en force de ces contradictions et en force de développement des moyens de production, le capitalisme va effondrer tout seul. Et la classe ouvrière devrait accueillir les fruits des contradictions de société capitaliste. Rosa Luxembourg propose une stratégie de lutte. Donc l'arme essentielle, principale, doit être la grève de masse. La mobilisation offensive de la classe ouvrière pour réaliser ses objectifs. D'autre côté, vous avez un autre type de stratégie de lutte que propose Lénine, qui se base essentiellement sur la vision de la nécessité d'une partie d'avant-garde et sur ce problème central de problème d'organisation va se greffer cette division entre Rosa Luxembourg et Lénine dont je vous avais parlé. Je ne sais pas si vous avez remarqué que dès le début, je parle davantage des divers partis que de l'international dans son ensemble. Et ce n'est pas par hasard, car le problème essentiel de cette époque-là est la question nationale. Le problème national est l'attitude du mouvement ouvrier envers la question nationale. Cette question se pose à plusieurs niveaux. D'abord, à un niveau élémentaire essentiel, celui de cadre de lutte. Marx, quand il décide à dissoudre la Première Internationale, il fait ça en raison d'une stratégie qu'il propose au mouvement ouvrier, qui est celui de la nécessité d'implantation dans le cadre national. L'implantation dans le cadre, c'est-à-dire, au lieu de maintenir un type d'international centralisé, le mouvement ouvrier doit se développer sous forme d'implantation dans ses réalités étatiques qui se cristallisent après 1870 et qui, dont le trait caractéristique de carte européenne. Il s'agit de cadres qui présument en soi une stratégie globale de révolution internationale simultanée. Mais une fois implanté dans le cadre national, devant les divers partis social-démocrates, se pose le problème dans quelle perspective cette implantation? Comment coordonner les objectifs précis, tactiques, définis par les spécificités nationales, c'est-à-dire politiques, culturelles, sociales des divers pays, avec une stratégie globale international du mouvement ouvrier. À l'époque de deuxième international, on essaye de trouver une réponse aléatoire à cette question. On réduit à une question de tactique. Or, le problème tactique étant un problème apparemment mineur, on laisse pour tous les partis la liberté de choisir la tactique adéquate selon les conditions nationales. Mais comme on ne parle pas de stratégie, le problème de mouvement devient de plus en plus centré sur les spécificités de leur intégration dans le cadre national dont ils font partie. Même la terminologie change. On ne parle plus, à la fin du XIXe siècle, de la classe ouvrière, des intérêts de la classe ouvrière, du prolétariat international. Mais de plus en plus, l'adjectif change. On va parler des intérêts de la classe ouvrière allemande, de la classe ouvrière française, et ce que cherche la synthèse entre national et international. Mais comment on cherche cette synthèse? Étant donné que le problème de grande actualité, je ouvre la parenthèse un peu, de voir quelle est la conception, l'état mental, l'horizon mental, le mouvement ouvrier fin 19e siècle dans le problème de nation, dans le problème de question nationale, et comment il va changer, quel changement il va subir à la veille de la Première Guerre mondiale. Si on regarde les textes, les documents de cette époque, nous sommes frappés par un phénomène très intéressant, que tout horizon mental de la social-démocratie, y compris les marxistes, est dominé par une vision 48 heures, par la vision de la bourgeoisie radicale, un humanisme vague, une espérance de fraternité générale réalisée par le socialisme, une minimalisation du problème national. Et en même temps, parallèlement, une forte tradition jacobine en France, une forte tradition nationale en Allemagne qui cohabite avec cette vision de négation d'existence d'un problème national et en même temps avec cette tendance de mettre sur le premier plan les intérêts nationaux. Or, en escamotant le problème question nationale en tant que problème théorique et pratique, en faisant appel à l'internationalisme rhétorique, la mentalité, l'horizon mental de mouvement ouvrier ne serait pas imprégné par une vision profonde internationaliste. Le monde ouvrier, l'ouvrier et les militants ouvriers restent sensibles aux argumentations nationales et nationalistes. Il suffit, l'atmosphère de 1914, que une puissante vague de nationalisme emporte aussi une grande partie des ouvriers organisés et des militants de mouvements ouvriers. Ce problème internationalisme et nationalisme reste donc une des questions en suspens, et par contre, l'intégration dans les réalités dites nationales et pas dans le cadre national caractérise l'activité, l'horizon de mouvement. Comment ce problème national se marie à cette époque-là avec une vision d'un autre problème important et central, celui de la question colonial. D'abord, avant 1914, même chez Lénine, ces deux problèmes sont dissociés. La question nationale comme telle se réfère dans le vocabulaire social-démocrate avant 1914 avant tout au problème des États multinationaux, aux questions des nations, nationalités opprimées d'Europe. Tandis que la question coloniale est traitée sur un autre vocable en tant qu'un problème lié à l'expansion impérialiste, en tant qu'un problème lié à des contradictions qui peuvent mener à une guerre. Et cette question coloniale, l'attitude envers la question coloniale, la pluralité des tendances envers la question coloniale, montre en même temps les confusions théoriques, l'héritage ou la hégémonie des valeurs culturelles et politiques de la bourgeoisie dans le mouvement ouvrier. Grosso modo, vous avez trois tendances. Une tendance qui prône une politique socialiste coloniale, la mission civilisatrice que l'Occident doit jouer dans les colonies, mission que, évidemment, les socialistes doivent reprendre à leur compte. Ou bien, vous avez une condamnation plutôt éthique du colonialisme, en tant qu'un mal, en tant qu'un phénomène qui déshonore l'humanité et le prolétariat. L'analyse qui condamne et qui demande une politique anticoloniale, anticolonialiste active, qui lie le phénomène de colonialisme au problème d'impérialisme, n'est qu'une tendance encore minoritaire. Donc les thèses commencent à émerger à peine à la veille de la Première Guerre mondiale et trouvera sa formulation en 1915, seulement en 1915, donc dans la lueur des réalités qui se dégagent lors de la guerre impérialiste de 1914, dans l'ouvrage de Lénine sur l'impérialisme. La question de l'impérialisme, évidemment, n'échappe pas à la pensée marxiste ou social-démocrate avant 1914. Il est lié avec un problème central qui se situe même au centre des préoccupations de tout recherche, débat, confrontation socialiste à partir de 1905, qui est le problème de la guerre. Je regarde ma montre parce que je ne voudrais pas être Victor Fay et comme j'ai commencé à 7h20, donc je dois m'arrêter environ à 8h20, non? Oui. Je sais que Victor s'arrête vers 10h, ça dépend de lui. Donc, entrons dans ce quatrième problème, n'est-ce pas, le problème de la lutte contre la guerre, qui, comme je vous dis, se situe au cœur même des débats, des controverses et des préoccupations socialistes à un moment quand le danger d'une guerre, quand les crises diplomatiques internationales commencent à succéder, c'est-à-dire à partir environ de la guerre russo-japonaise de 1904, suivie par la première crise marocaine de 1905. Or, comment se définit l'international? Regardons le vocabulaire d'abord et à travers le vocabulaire, essayons de dégager des positions plus profondes qui nous permettent mieux comprendre la question initiale, l'effondrement de 1914. La deuxième internationale se définit au début comme le parti de la paix. Socialisme est synonyme avec la paix. La stratégie qui est élaborée, qui est acceptée par l'ensemble du mouvement socialiste, au moins en principe, c'est la stratégie préventive. C'est-à-dire, tout effort socialiste doit centrer sur les efforts d'empêcher une guerre. Toute tonalité de cette alternative qu'on retrouve à partir de 1880 dans le vocabulaire et préoccupations socialistes rassemble aux alternatives, aux préoccupations du pacifisme bourgeois. Le pacifisme bourgeois comme tel représente jusqu'au début du XXe siècle l'alternative socialiste essentielle. Un changement intervient dans les préoccupations, dans la réflexion, avec l'amorcement de réflexion sur la question de l'impérialisme. Un débat long, confus, j'entre pas dans le détail, un débat évidemment limité même par la difficulté d'appréhender ce phénomène qui apparaît pour les contemporains, d'abord pour les contemporains socialistes, comme la réponse de la bourgeoisie à son imminent effondrement du capitalisme, comme une politique choisie et imposée pour déjouer le socialiste et pour empêcher l'effondrement du capitalisme. Les guerres coloniales changent les données et posent le problème dans d'autres termes. L'interrogation qu'est le rapport entre les guerres et l'impérialisme amène la gauche marxiste de essayer d'élaborer une alternative qui situe la lutte contre la guerre, la lutte socialiste contre la guerre, dans le cadre de lutte contre l'impérialisme. Ce débat aura lieu en 1907 au congrès de Stuttgart de l'International, où nous assistons à plusieurs types de confrontations significatives. D'abord, un premier niveau, c'est la confrontation entre l'optique, l'analyse de la social-démocratie allemande et du socialisme français. La social-démocratie allemande se situe dans une perspective fataliste. Capitalisme est synonyme avec la guerre. Nous, social-démocrates, nous devrons combattre le capitalisme, mais nous ne devons pas déposer des efforts spéciaux de combattre la menace de la guerre. Le problème de la guerre ne représente pas un objectif de mobilisation, un objectif de lutte en soi. La position, je pense que Madeleine Rébérou, vous avez fait état des socialistes français, surtout de Jaurès, c'est la nécessité de mobilisation permanente du prolétariat pour sauvegarder la paix, pour la lutte contre la menace d'une guerre généralisée. Voilà deux positions diamétralement opposées qui alimentent le débat. D'autre part, vous avez un autre type de contradiction, un autre type de confrontation entre deux positions différentes. Une, la position que je qualifierais de pacifiste socialiste, qui veut se contenter avec une condamnation générale de la menace des guerres et propose une stratégie pacifiste pour le mouvement ouvrier comme une forme de mobilisation pour des valeurs générales et des objectifs généraux pacifistes. D'autre part, vous avez l'alternative élaborée à ce moment-là par la gauche. Son forme de motion déposée par et signée par Rosa Luxembourg, Lénine et Martov, qui réclame, oui c'est le trio qui signe, en général on dit la motion Lénine, pour être plus clair, c'est la motion rédigée par Lénine, Rosa Luxembourg, Martov, présentée par Rosa Luxembourg et imposée par Rosa Luxembourg. Vous connaissez tous peut-être cette fameuse motion incorporée dans la résolution du Congrès de Stuttgart qui, comme telle, pose le problème du devoir des socialistes au cas si la guerre éclate. Les pacifistes posent le problème, n'est-ce pas, la nécessité d'empêcher une guerre. La gauche souscrit à cet objectif, mais pose le problème de l'attitude et devoir socialiste au cas si une guerre mondiale éclate, une guerre tout court éclate. Et ce devoir est d'utiliser les contradictions ouvertes par cette guerre pour transformer la guerre dans une guerre civile. À peu près, grosso modo, cette motion très brève qui passe pratiquement inaperçue. La majorité des délégués au Congrès considèrent qu'il s'agit d'un débat purement académique, et la gauche, utilisant la contradiction flagrante entre la social-démocratie allemande et le socialisme français, réussit à imposer cette motion qui représente le cœur, l'ossature en même de la résolution de Stuttgart. Par contre, un problème reste ouvert. Par quels moyens combattre la guerre? Et quels moyens employer pour transformer la guerre en guerre civile? Ici s'ouvre un débat qui, comme tel, ne trouvera jamais son siège dans les congrès de l'international.